Là, on voit qu'effectivement, toutes les planètes sont plutôt alignées entre les besoins d'investissement, les subventions, les aides, les attentes des uns et des autres. Et ça doit répondre aussi à l'autonomie des territoires sur leurs ressources énergétiques. Si on se place un peu plus loin, à 3 ans, 5 ans, quelles sont les grandes évolutions technologiques arrivées de réseaux d'infrastructures connectées ou d'autres dispositifs, qu'est-ce qui va nous motiver et nous engager encore plus dans les années à venir?
Alors, plus que de la technologie, pardon. Plus que de la technologie, enfin, en tout cas, avant tout, c'est vraiment le territoire durable. Et dedans, il y a la notion de gestion énergétique. On n'a pas forcément parlé dans la globalité jusqu'à présent. On a parlé beaucoup d'aménagement des territoires et effectivement de pouvoir aller jusqu'aux citoyens, jusqu'aux usagers. Il nous semble que la tendance sera qu'il y ait une vraie gestion globale énergétique des territoires. Et donc on a des premiers projets qui sont d'ailleurs dans nos entreprises, et ça fait encore une fois écho au fait qu'on est tous dans la même dans face au, enfin on use les mêmes leviers d'optimisation, c'est l'autoconsommation. Donc que ça soit sur nos propres bâtiments quand ils nous appartiennent, des ombrières également sur des parkings. Et donc ça, forcément, dans l'indépendance énergétique des territoires, et puis avec une volatilité, alors à minima une volatilité, mais on peut même considérer une croissance forte des coûts de l'énergie, ça va devenir des projets de plus en plus intéressants, et puis qui semblent aussi pouvoir être accompagnés par le gouvernement, et notamment, alors il y a à la fois la contrainte de la loi sur la zéro artificialisation nette, qui fait aussi réfléchir sur l'optimisation de l'usage des sols déjà construits, et puis potentiellement aussi un accompagnement des collectivités dans la valorisation de ce foncier pour la production locale d'énergie. Donc ça, c'est un premier sujet. On a des projets, voilà, que ce soit dans nos entreprises ou avec des collectivités, et même aussi chez des acteurs industriels, chez des agriculteurs. Et ça touche donc à la fois, encore une fois, tout le monde, et puis tous les territoires. Ça, c'est aussi important parce qu'on n'est pas forcément, quand on parle de mobilité dans les centres-villes, ça va adresser des territoires de taille importante. Là, on adresse tous les territoires.
Tu évoquais des énergies renouvelables, panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Ce sont des panneaux qui peuvent alimenter des bornes IRVE pour les véhicules et donc être dans l'autoconsommation et l'alimentation des véhicules. J'ai lu un article, 12 mètres carrés de panneaux photovoltaïques permettraient d'alimenter un véhicule pendant une année. Est-ce que ce sont des éléments qui sont justement dans les projets ou les perspectives à venir?
Alors,
Ça
sur le
dépend où.
papier, c'est en effet aussi simple que ça. Après, bon, voilà, c'est un petit peu plus complexe dans la réalité, mais ça fait partie des réflexions. Quand on parle d'autoconsommation, évidemment, les bâtiments eux-mêmes ont leur propre consommation et c'est intéressant. Mais on a aussi, en effet, des projets qui sont alors pilotes dans le sens où aujourd'hui, la batterie, faut savoir la dimensionner au plus juste et si c'est avoir une énorme batterie. Pour pouvoir justement alimenter les véhicules, ça n'a pas forcément non plus un intérêt écologique très important. Donc là, il y a des réflexions. Et puis au-delà de la batterie, ce en quoi on croit davantage et on investit, on n'est pas les seuls, tout l'écosystème de la mobilité électrique investit, c'est sur anglicisme, mais. Et en même temps, dans ce monde-là, il y a beaucoup d'anglicisme, c'est soit le load balancing, soit. Et ensuite, le véhicule to grid. Donc, simplement, load balancing, donc c'est de pouvoir gérer l'appel de puissance sur une grappe de bornes. Et ça, donc ça fait vraiment partie de toute façon de la stabilité des réseaux. Et ça, donc on a des programmes d'investissement, et notamment aussi soutenus par des aides, qui permettent, et donc dans lesquels il y a des constructeurs de véhicules, il y a des fournisseurs de bornes et des entreprises comme une autre qui sont partenaires pour justement essayer de définir, là on arrive sur les smart grids, en tout cas des réseaux qui permettent à la fois d'alimenter les véhicules sans déstabiliser le réseau électrique. Et puis, et après je te laisse la main, Jérémy, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est les enjeux des mobilités électriques. Évidemment, il y a les SDIRV, les schémas directeurs IRVE, qui sont en cours de réalisation pour la plupart d'entre eux, et qui, une fois encore, et je le dirai pour une dernière fois, associent entreprises, acteurs privés et acteurs publics, puisque le SDIRV idéal, c'est pas simple, mais le SDIRV idéal doit prendre en compte l'ensemble des infrastructures de recharge ouvertes au public sur un territoire, et donc ouvrir encore une fois le public au privé, et que le privé aussi s'ouvre au public. Donc voilà l'état des projets. Alors je n'ai pas parlé de technologie, parce que justement je pense qu'on est plutôt sur un avenir à la réflexion à la fois partenariat entre public et privé sur les intérêts et les enjeux communs, et puis l'aspect énergétique et la gestion locale de l'énergie et l'optimisation locale d'énergie.
Et véhicule to grid, ça a un avenir ou c'est une lubie de quelques-uns ?
Non, en tout cas, moi, ma position, c'est que c'est un avenir. On y travaille avec Alexis notamment, un certain nombre de projets pilotes. Et de toute façon, ça devra avoir un avenir. Aujourd'hui, si on prend les dernières déclarations de notre président sur le bouclier tarifaire autour de l'IRVE, il a arrêté les compteurs. On avait un objectif de 100 000 points de charge mis en service d'ici la fin d'année. On est à 70 000. Et d'ici 2035, il prévoit 1 100 000 points de charge déployés sur les voies publiques. C'est super, hein. Ça correspond aussi à un besoin. Hein. C'est projection des constructeurs automobiles, c'est à peu près 15 à 16 millions de véhicules électriques d'ici 2035. Donc c'est un peu moins de la moitié, à peu près la moitié des véhicules en service en France. À un moment donné, il va falloir trouver des solutions, parce que on a un enjeu et on sait maintenant que l'énergie n'est pas limitée en France. On s'engage dans des grands plans de sobriété pour faire des économies d'énergie, mais si on migre toute notre mobilité, en tout cas la moitié de notre mobilité sur la mobilité électrique, avec les poids lourds qui vont arriver et qui arrivent à grands pas, ça va poser des problèmes. Donc il faut de toute façon qu'on ajoute de l'intelligence dans ces systèmes-là, sur le réseau, et qu'on soit capable de... Voilà, ça va être le cas, on va voir, si on se projette demain, des parcs de véhicules d'entreprise, la journée, vont être chargés, vont être branchés, et donc c'est une source d'énergie capacitaire qui peut être disponible pour le réseau. Et donc on a des réflexions en cours, on accompagne nous des projets avec Enedis sur des plateformes de souplesse énergétique pour voir comment est-ce qu'on arriverait à monitorer finalement des échanges d'énergie. C'est des bonnes idées techniques. Maintenant, il n'y a pas que comment on fait techniquement, mais comment aussi on opère ça, parce que ça peut avoir, finalement, ça a un prix de marché. Donc c'est comment est-ce qu'on met ça en musique. On a aussi des réflexions de projets un peu assez long terme. On sait que si effectivement ce virage de la mobilité électrique s'accélère, si les poids lourds, ce qui est en train d'être engagé, hein, puisque les constructeurs poids lourds viennent de se mobiliser assez largement sur les poids lourds électriques, puisqu'on sait aujourd'hui que l'hydrogène sera peut-être la solution demain, mais à court terme n'est pas la solution. Donc il y a les poids lourds qui se sont engagés, qui ont défini une norme, qui se sont mis d'accord sur une prise, savoir quel côté elle était. On est parti, donc le programme est lancé, donc on devrait avoir assez prochainement des poids lourds sur le réseau. Donc c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on va gérer ces besoins d'énergie, comment est-ce qu'on va gérer les pics du 15 août et les pics du pont du mois de mai. On ne va pas rajouter et dimensionner des champs de bornes partout en France, donc il va falloir avoir des solutions intelligentes de bascule d'énergie qui vont nous permettre d'optimiser le réseau. Donc ça, c'est clairement des projets qu'on accompagne aujourd'hui, qui sont pilotes. Les réponses, je les ai pas, mais voilà, ça fait partie des solutions de demain. Des autres projets pilotes qu'on voit émerger autour de la mobilité, c'est finalement l'accompagnement du déploiement des ZFE, donc des zones à faible émission. Aujourd'hui, il y a 22 territoires en France qui sont concernés. Demain, on imagine qu'il y en aura un peu plus. Donc Ça, globalement, c'est mis en ordre de marche, hein, donc c'est la catégorie de vos véhicules. Donc c'est assez mis en ordre de marche d'un point de vue finalement communication, mais dans les faits, il n'y a pas de contrôle sanction. Donc voilà, il y a toute une réflexion qui se met en cours de savoir qui a autorité, est-ce que c'est la collectivité, est-ce que c'est le département, enfin voilà, y a encore, enfin la région. Donc tout ça, c'est fait partie des sujets où on attend, je pense qu'on aura assez prochainement, encore une fois, un statut, en tout cas une position gouvernementale sur le sujet, mais c'est pareil, on accompagne ces projets-là, on est précurseur, on a un certain nombre qui sont connexes aux ZFE, c'est tout ce qu'on va voir qui commence à émerger. D'ailleurs, on en a un gros sur Paris, qui sont des voies dédiées au covoiturage. Alors, vous l'avez peut-être vu dans la presse, parce que pour les JO, la ville de Paris s'est lancée à dédier la voie gauche du périph pour la presse et les sportifs. Et l'ambition du projet, c'est de recycler, réutiliser cette voie pour le covoiturage et les véhicules électriques à la fin des JO. Donc on se rapproche un peu on touche du doigt finalement les besoins qu'on aura sur les ZFE, mais associés à finalement une voie gauche du périph. Alors il faut se projeter, hein, parce qu'il faut imaginer enlever une voie sur le périph. Pour ceux qui sont parisiens, c'est pas évident. Mais voilà, c'est des projets qu'on accompagne et qui pour le coup demain, dans une réflexion où nos usages ont changé, parce que c'est aussi un enjeu, bah peut-être que ce sera possible. En tout cas, moi je le souhaite. On a des projets de voies dédiées sur lesquels on travaille, où les régions, d'ailleurs la région Île-de-France nous accompagne, donc de voies dédiées au covoiturage, aux véhicules électriques, à des navettes qui ne seraient pas autonomes, mais on va dire intelligentes et connectées sur des parcours donnés, définis, pour fluidifier et optimiser les temps de parcours. Donc on a un certain nombre de projets techniques, enfin, on peut en empiler beaucoup, mais pour moi, l'enjeu, c'est vraiment qu'on ait cette convergence collective vers des changements d'usage. C'est-à-dire que on parle de véhicules électriques tout à l'heure. Si on remplace la voiture électrique qu'on a par un gros SUV qui a une batterie qui fait 80 kW, ça sert à rien. Enfin, on a raté le coche. Ça n'a pas un meilleur bilan carbone qu'une voiture thermique. L'enjeu, c'est de dire, bah, on accepte que bah, faut qu'on change nos habitudes et qu'on change nos usages, et que peut-être finalement bah, on va avoir besoin d'une plus petite voiture pour nos trajets quotidiens, que finalement d'avoir 300 km ou 400 km d'autonomie, bah, globalement ça répond à 99% des besoins. C'est juste que bah, on se limite dans 1% des cas, et donc le sujet c'est comment on traite ce pourcent, et d'arriver à réfléchir et à accepter qu'on ait une contrainte 1% du temps. C'est ça la clé. Et donc c'est cette convergence collective vers des changements d'usage, vers finalement une ambition commune de durabilité sur nos territoires et sur notre façon de vivre, et par conséquence après, et par déclinaison, de travailler ensemble à finalement l'adaptation des infrastructures, que ce soit pour la mobilité ou pour le reste.
En tout cas, merci pour ces éléments. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, on peut voir aujourd'hui que la conjoncture actuelle, les plans de sobriété, finalement, il faut les voir comme des opportunités, hein, sur des magnifiques projets sur lesquels on est capable. Et en tout cas, les entreprises savent accompagner les collectivités et les citoyens. Et j'aime bien rebondir sur ce que tu évoquais, c'est que on a besoin d'évoluer et ne plus voir la contrainte. Chaque évolution est liée à un engagement personnel ou collectif. Et comment on arrive à engager les personnes, c'est quand on arrive à passer de la contrainte au plaisir. Et si on voit uniquement ces évolutions comme une contrainte, dans le 1% des cas d'une voiture électrique, alors que dans 99% des cas, on a plaisir de ne pas émettre d'émissions de carbone, je pense qu'on arrivera à faire évoluer les mentalités et travailler sur ces projets.